Parlons économie sur Radio Lac et les chaînes Carac avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur Carac, quand vous le souhaitez, carac.tv, sur Radio Lac, en direct, chaque jeudi, 14h, 15h, parlons économie, notre rendez-vous qui s'intéresse cette semaine au Grand Genève et ses défis. Il y en a, hein, on va pas faire croire qu'il y en a pas, il y en a, mais on va amener des éléments de réponse sur la mobilité. Ça sera un peu plus tard dans cette émission, en compagnie de Jean-Luc Bourget, qui est le directeur de la direction de la régulation du trafic et des opérations à l'Office cantonal des transports. Nous allons également parler compétitivité, opportunité, en compagnie de maître Anne Meyer. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac et sur Carac. Vous êtes donc avocate associée de l'étude Meyer Retso Dunant. Quel est l'impact du Grand Genève sur votre métier et comment est-ce que vous traitez cela?
Oui, merci pour cette question et merci pour l'invitation. Nous avons dans notre pratique d'avocat et d'avocate, évidemment, beaucoup d'entreprises qui viennent nous consulter. Lorsqu'elles se lancent dans une activité, elles viennent de l'étranger, elles ont besoin de connaître les régulations en vigueur ici et de se mettre en conformité, bien évidemment. Ici, nous pouvons bien entendu les aider. Et puis, on est le sujet pour lequel je viens aujourd'hui, qui est essentiel à notre avis, c'est celui de la formation continue. Donc, toujours se garder au goût du jour pour être certain de faire les choses correctement.
Oui, parce que la législation évolue, encore faut-il bien entendu la connaître. On va prendre le temps d'en parler dans cette émission. Je vais également dire bonjour à Julien Gautret qui est autour de la table. Bonjour à vous.
Bonjour.
Responsable de la gestion de fortune franco-suisse chez Alchimia. La gestion de fortune franco-suisse, on a le sentiment de ce côté-ci de la frontière qu'il y a un gagnant, un perdant quand on parle de gestion de fortune franco-suisse.
Merci pour cette question. C'est toujours très intéressant d'avoir ce paradigme qui ressort. Non, il y a pas de gagnant, il y a pas de perdant. Je dirais que le Grand Genève permet justement ce développement entre les deux pays et d'apporter une richesse, j'ai envie de dire, commune. Donc on fait face à beaucoup de défis parce que on a beaucoup d'entrepreneurs français qui veulent venir s'installer en Suisse ou qui développent leur business en Suisse. Donc on travaille beaucoup notamment avec les partenaires avocats fiscalistes pour monter les structures qui sont nécessaires. Et après il y a tout un tas de conditions qui sont notamment favorables à l'attractivité de Genève et du coup ça attire beaucoup de talents, d'entrepreneurs aussi à succès souvent pour créer de la richesse dans le Grand Genève.
Donc c'est intéressant pour tout le monde quand les entrepreneurs sont à succès, bien sûr. Bonjour Guillaume Jacquemoux.
Bonjour.
Vous êtes le président des Panoramiques du Salève, vous êtes également le directeur d'Action Planète Events. Le Salève, c'est la plus genevoise des montagnes françaises, comme on le dit.
Oui, tout à fait. Et pas qu'en visite, c'est également en pâturage, vous le sauriez.
Ah d'accord.
Énormément de pâturages qui appartiennent à des Genevois.
Parce que c'est donc un territoire très particulier, celui du Grand Genève, et je trouve que finalement le Salève représente bien cette particularité du territoire, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. On a, depuis notre ouverture il y a plus d'un an, reçu passablement de Genevois, et beaucoup de touristes aussi internationaux, qui, liés à ces nouvelles initiatives de mobilité, nous permet d'avoir le succès escompté tout en étant assez humble. On a fait un an, ils sont bien passés.
La mobilité, alors on viendra vraiment dans le détail un peu plus tard dans cette émission, mais est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des freins, mais aussi l'une des opportunités du Grand Genève? À qui veut répondre? Je me rends compte que je n'ai pas du tout dit bonjour à Romain Durier. Navré, bonjour.
Bonjour Benjamin.
Dis donc, d'autant plus que vous êtes quand même directeur opérationnel, directeur adjoint de la CCIG, et que le Grand Genève, vous aussi vous en parlez.
Oui, c'est un sujet chez nous qui est prépondérant. Naturellement, on est dans un grand bassin de vie. Quand on regarde une carte, on se rend compte que Genève a environ 170 km de frontière avec la France et 15 km avec le reste de la Suisse. Donc, naturellement, l'imbrication, elle est très forte et les enjeux sont très forts aussi. Et qui dit imbrication forte et enjeux forts, ça veut dire aussi parfois des frictions sur quelques sujets. Vous avez parlé de la mobilité, Benjamin, juste avant. C'est un des sujets, effectivement, sur lesquels on espère pouvoir améliorer les choses dans les prochains mois et dans les prochaines années. Il y a tout un tas d'initiatives autour de l'amélioration de la mobilité, notamment du développement de la mobilité douce, aussi bien du côté des acteurs publics que des acteurs privés que sont les entreprises.
Parce qu'il y a aussi des notions de compétitivité, bien sûr. Hein. On sait bien que, d'une manière globale, la main-d'œuvre, les coûts en France ne sont pas les coûts en Suisse. Et le Grand Genève est une zone très particulière pour ça. Romain Durier.
Oui, alors peut-être effectivement dire que ici on a un canton avec un gouvernement qui est autonome. De l'autre côté, on a de la frontière, on a deux départements, une région et puis un cadre fiscal, légal et social qui est fondamentalement différent. Alors le coût de la main d'œuvre à la fin, faut quand même tout regarder dedans parce que vous avez ce que perçoit l'employé, ça c'est une chose. Il y a ce que paye l'employeur, ça c'est autre chose, et le niveau des charges patronales est sensiblement différent d'un côté et de l'autre de la frontière. Dans le calcul, on doit aussi intégrer le nombre de semaines de vacances, le nombre d'heures travaillées par semaine, et donc à la fin, l'écart il est en réalité pas si important que ça.
Maître Anne-Meyer.
Oui, merci. Alors, effectivement, est-ce que c'est un défi ou est-ce que c'est une attractivité, justement, pour la région du Grand Genève? C'est une vraie question pour les employeurs. Je pense que pour nous, de notre point de vue, il faut se poser la question d'un point de vue juridique et justement de nouveau de compliance avec les règles applicables. C'est la question du télétravail, par exemple, qui est extrêmement importante. Donc les gens, Covid est passé par là, on le sait. Les gens veulent beaucoup télétravailler aujourd'hui. On sait, on parle beaucoup du télétravail des frontaliers. Ça a un impact énorme au niveau fiscal et puis ça a un impact énorme au niveau des assurances sociales. Hein. Vous pouvez basculer du côté français, par exemple, pour devoir assurer vos employés au lieu de les assurer à l'AVS en Suisse, vous allez vous retrouver à devoir les assurer en France, ce qui peut avoir un impact considérable sur les finances et l'organisation de l'entreprise. Tout ça, c'est des choses, si les connaissances de nos auditeurs ne sont pas 100% au point ou à jour, je les invite vraiment à venir à la journée de droit du travail qui se tient le mardi 30 septembre prochain, où ils vont pouvoir rafraîchir leurs connaissances là-dessus et être au courant des risques qui peuvent se poser. Et puis de ce que l'employeur peut faire pour rester attractif, pour toujours continuer à attirer les talents et puis aussi à les garder, bien entendu.
Oui, c'est ça, la rétention. On parlait de formation continue il y a quelques instants. Les gens qui ont envie de venir travailler dans le Grand Genève, mais souvent à Genève aussi, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, Guillaume Jacquemoux?
Oui, on a un territoire en France voisine qui attire énormément de travailleurs. Il faut savoir que pour un frontalier qui vient travailler à Genève, il y a un actif en plus qui vient en France voisine. Il y a une énorme pression sur le foncier. On n'a pas que la problématique des salaires, bien que, comme en rebondissant sur ce que disait Romain, la différence dans la restauration maintenant, on se rend compte que, oui, à la semaine de travail travaillée, on veut dire à l'heure travaillée et aux conditions de travail, parfois, on peut être aussi attractif, mais il n'empêche que c'est quand même difficile de lutter contre les emplois genevois qu'on essaye d'attirer des gens en France voisine, et la problématique du logement. Et on peut se féliciter maintenant d'avoir un pôle métropolitain genevois qui se met en place sur les solutions de mobilité. Et on peut espérer pour la suite qu'il puisse prendre d'autres types de compétences, typiquement sur l'habitat, pour faciliter les passages. C'est-à-dire deux salariés d'entreprise. Moi, j'ai une entreprise à Genève, une entreprise en haut du Salève. Je me pose des questions chaque jour sur le télétravail, à savoir, est-ce qu'ils ne sont pas trop en France en train de travailler en télétravail ou sur des événements? Est-ce qu'ils ne vont pas basculer du côté de la CMU plutôt qu'à l'Alamal parce qu'ils souhaitent être à l'Alamal? Voilà, donc on a quand même ici, pour trouver des solutions pour des PME, je ne parle pas des grands groupes qui en général ont des avocats, mais pour des PME, trouver ces solutions, c'est souvent la croix et la bannière.
Et on continue d'en parler, bien sûr, sur Carac, sur Radio Lac. C'est Parlons Économie. Radio
Lac. Parlons Économie sur Radio Lac et les chaînes Carac.
Nous nous intéressons cette semaine au Grand Genève, à ses défis, aussi bien la compétitivité, les opportunités et la mobilité. Avec autour de la table, Romain Durier, le directeur opérationnel et directeur général adjoint de la CCIG, Maître Anne Meyer, avocate associée de l'étude Meyer Retzo Dunant, avec Julien Gautret, le responsable de la gestion de fortune franco-suisse chez Alchimia, avec Guillaume Jacquemoux, le président des Panoramiques du Salève et directeur d'Action Planète Events. J'en reviens vers vous, Julien Gautret, puisqu'on parlait un petit peu plus tôt fiscalité, les conditions fiscales par rapport à cette gestion de fortune transfrontalière, est-ce que ça influence l'attractivité de notre Grand Genève qu'on aime bien?
Alors oui, il y a pas mal d'éléments qui influencent sur la gestion de fortune. Ça va de l'entrepreneur quand il vient s'installer en Suisse ou qu'il développe son entreprise en Suisse, parce qu'il y a les éléments qu'on a discutés au préalable, que ce soit les conditions, les cotisations sociales, la fiscalité aussi sur les bénéfices des entreprises qui est différent entre Genève, d'autres cantons et aussi la France, évidemment. Donc, c'est tous des éléments qui sont importants pour l'attractivité de la gestion de fortune. Après, ce qui fait aussi foi, c'est l'expertise de la Suisse, de Genève, en termes de gestion de fortune, parce que c'est une place très importante qui continue de croître, malgré le regroupement de banques. La gestion de fortune à Genève continue de croître, les assets augmentent. Donc, c'est toujours des éléments qui sont importants pour l'attractivité, justement, de ces entrepreneurs qui viennent s'installer, mais aussi qui bénéficient de cette gestion de fortune et de ces conseils-là.
Tant que le siège du BS ne part pas aux États-Unis, en tout cas, on verra pour la suite. Bon, enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui. Cependant, là, c'est effectivement une image qu'on a et qui est formidable, il faut la maintenir, mais est-ce qu'on pourrait avoir quelques solutions simples mais efficaces pour aider les entreprises à transformer ces difficultés en opportunités, finalement, faire un avantage compétitif, pardon. Est-ce qu'on a quelques idées? Ce sera pour mettre Anne Meyer qui rapproche le micro.
Oui, oui, merci. Alors, bon, je pense que l'accès à l'information est essentiel. Hein. Donc, une entreprise, ce dont on a discuté tout à l'heure, pour une entreprise, ce qui est difficile, c'est de savoir quel est le cadre législatif réglementaire auquel elle doit se conformer. Les administrations cantonales, fédérales ont fait beaucoup d'efforts à ce sujet ces dernières années, ça c'est clair. Donc là, les entreprises ont maintenant aussi plus facilement accès à des informations. Il faudra avoir une prévisibilité aussi de l'action de l'administration, prévisibilité des sanctions, etc. Puis bien sûr, un des aspects fondamentaux, c'est clair, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la formation continue du personnel dans l'entreprise, pour être certain que les processus sont bien mis en place, qu'ils sont conformes à la législation et puis qu'ils ne mettent pas l'entreprise à risque. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse se remettre à jour, se documenter et puis être certain qu'on comprend les enjeux quand on est RH, responsable des salaires, juriste d'entreprise, etc.
Mais ça veut dire aussi, dans ce cas-là, avoir des employés qui restent dans l'entreprise. On sait que dans certains métiers, et je me retourne vers vous, Guillaume Jacquemot, il y a un fort turnover. J'imagine que c'est peut-être le cas chez vous ou pas?
Oui, oui, on souffre d'un turnover relativement élevé. On a aussi, dans la restauration qui occupe le Salève, une crise de la vocation, qui est à part de la problématique du territoire.
Les heures sont longues, c'est pas toujours le plus simple, c'est pas les employés mieux payés, il y a tout ça. Hein.
Il y a tout ça. Alors nous, justement, on essaie de prendre le contre-pied et d'offrir une semaine de 39 heures, toutes les heures sont payées, et d'essayer justement de lutter contre les semaines à rallonge et d'offrir des vraies conditions et d'être un employeur de choix. Pour revenir sur les idées simples à mettre en place, en fait, rien n'est vraiment simple à mettre en place en termes transfrontaliers. Quand on compare les autres bassins, les autres grandes villes frontalières de France, en Allemagne, etc., ça reste en Europe. Ici, on a quand même des problématiques importantes. Quand on réalise un événement en France avec une société suisse, on doit passer par un carnet d'ATR, on doit passer à la douane, on doit déclarer. La circulation des biens et des marchandises est un immense sujet. Et si on pouvait avoir, ça se passe pas comme ça, mais dans les accords bilatéraux négociés, plus de facilité pour la zone du Grand Genève en termes de passation de marchandises, et là je ne vous parle pas de choses qui changent l'économie d'un pays, mais qui permet des facilités tant pour les entreprises côté France que celles côté Suisse d'opérer des deux côtés de la frontière. Ça, c'est ce que je constate tous les jours. La TVA, pour connaître le sujet, c'est un casse-tête infini. Un guichet transfrontalier, admettons, une solution simple, si une officine comme le pôle métropolitain ou la chambre de commerce France-Suisse ou la chambre de commerce et d'industrie,
au hasard,
voulait créer un guichet des affaires transfrontalières pour mieux orienter après avec des spécialistes ou avec un premier niveau de réponse, parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de ça. Moi, j'ai longtemps travaillé dans la banque et je m'occupais des entreprises, et dans une des entreprises qui ne va pas aller aux États-Unis d'ailleurs, et on avait énormément de parts de marché, on voyait beaucoup d'entreprises françaises venir chez nous on veut travailler à Genève. Et il y avait un tabou, c'est qu'est-ce que je dois faire? Dois-je m'inscrire au registre du commerce? Est-ce que je peux opérer en venant avec mon matériel? Est-ce que je dois louer sur place? Avec tout ça, avec un protectionnisme de l'époque qui n'a plus lieu d'être, je crois, maintenant. Il y a beaucoup de choses autour de l'économie, des solutions simples. Peut-être un guichet. Voilà, je lance l'idée comme ça.
Romain, tu... Sans forcément...
Je valide, oui, bien sûr, mais il y a deux éléments. Il y a des entreprises qui sont déjà sur le territoire et qui opèrent sur le territoire. Il y en a un certain nombre qui sont affranchis de ces difficultés et qui ont mis en place des process qui leur permettent d'opérer des deux côtés de la frontière. Et puis, je pense qu'il y a un enjeu qui est plus fort, surtout dans les temps qu'on vit actuellement, qui sont des temps peut-être un petit peu plus compliqués qu'il y a quelques années en arrière, pour les raisons qu'on sait, notamment... la difficulté sur le marché américain, un certain nombre de tensions qui existent et qui font que ça crée une certaine incertitude. On doit aujourd'hui prouver encore un peu plus qu'hier, je pense, la compétitivité de Genève, l'attractivité de Genève. Et l'attractivité de Genève, elle passe, à mon avis, par le Grand Genève. C'est-à-dire que le bassin dans son ensemble est attractif. Et quand on présente un territoire comme celui de Genève et du Grand Genève à des Japonais ou à des Coréens, on ne peut pas se limiter aux frontières cantonales, parce que vu depuis là-bas, ça se comprend pas nécessairement. Et donc, au même titre qu'on a un marketing touristique qui est transfrontalier, on doit sans doute réfléchir à un marketing économique et d'attractivité économique qui dépasse les frontières et qui puisse mettre en exergue les avantages qu'on a de part et d'autre de la frontière, et ils sont nombreux.
Mettre tout le monde d'accord, ce n'est pas toujours simple, surtout quand il y a une frontière, effectivement. On va continuer de parler de tout cela dans Parlons Économie sur Radio Lac, sur Carac, ne bougez pas.
Économie sur Radio Lac et les chaînes Carac, avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
Le Grand Genève, précisément, il en est question cette semaine dans Parlons Économie, compétitivité, opportunité, un peu plus tard, mobilité, avec des invités autour de la table, naturellement, Guillaume Jacquemot, le président des Panoramiques du Salève et directeur d'Action Planet Events, Julien Gautret, le responsable de la gestion de fortune franco-suisse chez Alchimia, maître Anne Meyer, avocate associée de l'étude Meyer, Retzo, Dunan, Romain Durier, directeur opérationnel et directeur général adjoint de la CCIG. Une question sur le WhatsApp de Radio Lac au 079-918-3000 de Antonia, qui voudrait savoir si les entreprises françaises qui viennent s'installer à Genève sont-elles aidées pour leur installation par l'État ? Question d'Antonia. Romain Durier.
Oui, peut-être je prends la parole pour répondre. La Suisse entretient un système qui est plutôt libéral, avec la volonté de l'État de créer un cadre qui soit favorable à l'entrepreneuriat, et c'est ce qui se pratique ici à Genève. Donc il n'y a pas d'aide à proprement parler comme on peut les avoir dans d'autres pays. Néanmoins, il y a des services de l'État qui sont dédiés à l'accueil de nouvelles entreprises, et d'entreprises étrangères en particulier, au travers de l'Office cantonal de l'économie et de l'innovation, ici à Genève. Et puis pour les projets à forte valeur ajoutée, les projets technologiques, il y a effectivement un certain nombre de structures qui peuvent être la Fongite, par exemple, dans l'innovation, qui vont accompagner des entreprises qui vont se créer ici à Genève et qui vont développer une innovation. Donc il y a cet accompagnement, mais qui ne se transforme pas en subvention à proprement parler pour les entreprises, c'était le cas de la question.
Et quels sont les secteurs actuellement qui font que le Grand Genève est porteur pour les entreprises en Suisse ? On aime bien parler de montres, de vin, et à raison. Est-ce qu'à Genève, on est toujours sur ces dynamiques-là ou il y en a d'autres maintenant ?
À qui va répondre ? Je pense qu'il y a une dynamique. Alors oui, en dehors des grands secteurs connus, le tourisme et l'événementiel. On a un office de tourisme qui est très dynamique à Genève, qui, malgré la perte d'un grand salon, a su...
Salon d'auto, on peut le dire.
Salon d'auto, tout à fait, qui est une politique toujours délicate d'avoir des très gros événements. Quand on les perd, c'est très difficile. Par contre, maintenant, on voit le travail qui est fait. On a de plus en plus de particuliers qui viennent à Genève également. Il y a une vraie campagne, une vraie volonté de l'Office du tourisme de le faire. Et ces gens viennent, comme quand vous recevez des délégations de Corée ou du Japon, ils viennent découvrir le Grand Genève. On va à l'Horloge Fleurie, on va au pied du jet d'eau, et puis on voit le Salève, on a envie d'aller sur le Salève. Donc,
du Salève même, pourquoi pas ?
Oui, alors, je ne veux pas du tout publicité, vous avez bien compris. Mais donc c'est vraiment le tourisme et l'événementiel... reste une valeur forte. Je crois que la destination genevoise, Romain, tu me confirmeras, en Europe est dans le top 5 pour les particuliers. On le constate aussi au panoramique, où on reçoit 70 à 80% de visiteurs étrangers. Donc oui, le tourisme est vraiment un secteur d'activité porteur, et des deux côtés de la frontière.
Et quand on voit, si je prends l'impact sur les prix, parce que c'est ce qui revient aussi, je synthétise un petit peu certains messages qu'on reçoit sur le WhatsApp, l'impact sur les prix, si on veut aller voir un spectacle, on veut aller au cinéma, on pourrait citer des dizaines d'exemples, il y a une réelle différence. Donc comment est-ce qu'on fait pour être, j'en reviens à cet aspect compétitivité, opportunité du Grand Genève, mais du Grand Genève dans son ensemble. Est-ce que c'est compatible avec une différence réelle de prix d'une part et l'autre de la frontière ?
Ah, j'ai envie de répondre.
Eh bien, retournez-y.
Après, je me tais pendant un moment.
Retournez-y, Guillaume Jacquemot.
Je pense qu'on pose cette question, on se pose la question, est-ce que les gens en France viennent consommer des services en Suisse, finalement ? Est-ce qu'il y a vraiment une offre qui est consommée aussi bien par des Genevois que par des personnes qui habitent en France voisine ? Je crois qu'il faut aborder le sujet du, de cette population, de ce bassin de population, il a changé drastiquement. La population frontalière maintenant, pour moitié, c'est des catégories socioprofessionnelles supérieures qui ont des budgets, qui ont du pouvoir d'achat, qui bien sûr font leur commerce de tous les jours en France proche de leur habitation, mais qui consomment Genève. Et lié avec l'offre de mobilité, c'est clairement une opportunité. Alors, il y a le Francfort, évidemment que l'offre culturelle, l'offre de sport est peut-être moins chère en France voisine, mais en France voisine, il y a assez peu d'offres finalement. Et enfin, moi, premier titre.
Mais il n'y a pas le Servette.
Il n'y a pas de Servette, mais vous voyez, par exemple, quand vous allez à Vitam Park, qui est en France voisine, il y a un beau distributeur de billets du Servette de Genève. Donc je pense que c'est déjà dans les faits, les gens le vivent. Et ces frontaliers d'aujourd'hui ne sont pas les frontaliers d'hier et participent à l'économie genevoise. C'est un peu un mythe qui tombe. Je pense que ça se prouve statistiquement, ça se prouve dans les comptes des banques qui gèrent les clients frontaliers. Il faudrait simplement sortir quelques statistiques. Je pense que Julien est au courant de ça.
Julien Gautrey qui me faisait signe qu'il souhaitait rebondir.
Oui, exactement. En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect du frontalier qui consomme en Suisse, contrairement aux idées reçues. Et les dépenses personnelles des frontaliers en Suisse s'élèvent à plus d'un milliard par an, donc ce n'est pas anodin non plus. Et puis il y a aussi l'aspect de la consommation, même si elle est moindre, culturelle, des Suisses en France, puisque quand on doit aller dans certains cinémas dans le canton de Genève ou dans le Grand Genève, pour voir le même film, on peut croiser des personnes qu'on connaît qui vivent en Suisse, qui vont aussi au cinéma en France. Donc il y a une imbrication qui existe depuis toujours. Alors, étant natif d'ici, au même titre que Guillaume et sans doute mes camarades...
Vous pouvez m'inclure aussi, pas
d'accord. On se rend bien compte que le Servette, qui a un rayonnement footballistique de hockey, de football féminin et de rugby à Genève, dans les académies, on retrouve aussi des partenariats avec les clubs qui font partie du Grand Genève, et on trouve des rugbyman d'Annemasse qui jouent pour le Servette de Genève, des joueurs de foot dans les clubs d'à côté qui viennent aussi dans l'académie. En fait, cette imbrication, elle existe depuis toujours, et elle va juste au-delà des considérations de clochers qui sont sympathiques, mais qui aussi déterminent le fait qu'on vit tous ensemble.
On vit tous ensemble, ce qui me donne envie de poser la question du public-privé. Je vois également que Maître Meyer veut réagir, et ça sera fait dans quelques instants sur Carac, sur Radio Lac.
Parlons économie sur Radio Lac et les chaînes Carac.
Le Grand Genève, c'est la thématique de Parlons économie via vos WhatsApp également. Nous les voyons, nous en parlons. Mobilité, compétitivité, opportunité avec Maître Anne Meyer, avocate associée de l'étude Meyer Retso du Nant, avec Guillaume Jacquemoul, président des Panoramiques du Salève et directeur d'Action Planet Events, avec Julien Gautrey, le responsable de la gestion de fortune franco-suisse chez Alchimia, avec Romain Durier, directeur opérationnel et directeur général adjoint de la CCIG. Nous parlions de ces différents impacts finalement entre la France, la Suisse, tout ça au sein du Grand Genève. On parlait hors antenne, Maître Anne Meyer, un mot bien qu'on va remettre sur la table, c'est le Covid.
Oui, je voulais simplement renchérir sur ce qui avait été dit tout à l'heure, avec des souvenirs de cette période du Covid où tout Genève, en fait, a été choqué et paralysé par le fait qu'on ne pouvait plus traverser les frontières tout d'un coup. On s'est rendu compte que ces frontières étaient des vraies frontières et qu'on ne pouvait plus passer. Donc, on ne pouvait plus aller manger une glace à Annecy, on ne pouvait plus faire son marché à Collonges-sous-Salève. Peut-être ça nous a fait redécouvrir un peu la Suisse.
C'est vrai que
c'était une circulation qui existait, qui existe à nouveau maintenant, des deux côtés. Donc, ce n'est pas seulement les frontaliers qui viennent travailler à Genève, dont les entreprises genevoises ont besoin, mais c'est aussi les habitants de Genève qui, en fait, à qui toute cette région appartient en quelque sorte, dans le sens où on y voyage, on y consomme, on y dort parfois, et puis ça fait partie de notre vie et de notre quotidien.
Donc il faut faciliter l'intégration, la fidélisation des différents travailleurs, quel que soit le côté de la frontière. De toute façon, c'est ce qu'on est en train de dire, la réalité, et c'est ce que rappelait Romain Durier un peu plus tôt, c'est qu'on a beaucoup plus de frontières avec la France qu'avec la Suisse. C'est la réalité de Genève. Maintenant, on ne peut pas avoir une loi Grand Genève qui ne s'applique que de Chancy à Lyon, presque, j'ai l'impression, parfois, le Grand Genève. On va l'arrêter à Annecy. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement ? C'est pour qui ? C'est pour Romain Durier.
Oui, effectivement. Alors, on ne peut pas avoir une loi qui soit spécifique à un territoire, surtout à un moment où on est en train de renégocier des accords bilatéraux avec l'Union européenne, donc dans un cadre beaucoup, beaucoup plus large. Peut-être rappeler justement que les bilatérales 1 et les bilatérales 2, elles ont accompagné quelque part aussi la croissance de la Suisse et la croissance de Genève. Pourquoi ? Parce que ça a permis d'abord d'avoir les ressources nécessaires en main-d'œuvre, on le rappelait juste avant. Genève a besoin de main-d'œuvre et puis Genève a de la peine à loger toute sa main-d'œuvre sur son territoire. Donc en réalité, le recours à la main-d'œuvre transfrontalière, elle est essentielle. Et puis après, alors il reste des difficultés. Guillaume l'a rappelé tout à l'heure, lorsqu'on doit passer du matériel de manière provisoire de l'autre côté de la frontière, lorsqu'on doit envoyer des collaborateurs suisses sur le territoire français ou européen, donc il y a un certain formalisme à respecter, que ce soit au niveau douanier, au niveau fiscal ou au niveau du règlement social. Mais néanmoins, c'est possible, ça se fait. Il y a des volumes d'activités qui sont très importants. Et d'ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes est le premier partenaire commercial de Genève en termes de flux de prestations de services, en termes de flux de marchandises. Et donc, ça prouve bien qu'on vit dans ce grand bassin qui est intégré. Et puis, si on revient un petit peu en arrière, on a des réglementations spécifiques, en réalité, qui existent. Hein. Si on regarde les zones franches qui découlent de l'accord de Territé 1933, c'est une particularité qu'on a ici à Genève, qu'on n'a pas ailleurs. Et quand vous buvez du lait genevois que vous avez acheté à la Migros, et bien souvent, il vient depuis la France voisine, en réalité.
Et d'ailleurs, souvent, il passe par la Migros, c'est écrit Étrembière. Hein, dessus, si vous regardez, ça peut transiter par Migros France.
Exactement.
Maître Meyer.
Oui, merci. Effectivement, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit. C'est vrai qu'on a une activité commerciale, des entreprises qui œuvrent des deux côtés de la frontière. Puis on a aussi des gens qui passent d'un côté et de l'autre. Et nous, dans nos domaines de spécialisation, droit du travail, assurance sociale, etc., les questions qui nous intéressent ici, c'est celle de la réglementation. Quand vous êtes une personne, une responsable RH, par exemple, et que vous venez d'un environnement français, vous avez besoin de comprendre évidemment que les réglementations sont extrêmement différentes des deux côtés de la frontière. Donc là, on va avoir la confrontation à un système réglementaire qui est très différent, à une culture aussi qui est extrêmement différente. Et vous devez impérativement avoir accès à des outils pour avoir accès à l'information et pour pouvoir vous former et vous maintenir à niveau dans tout, pour aborder et gérer toutes ces questions-là pour que l'entreprise puisse fonctionner correctement et en conformité avec les règles applicables des deux côtés de la frontière.
Un autre WhatsApp qui est arrivé, je trouve qu'à Genève, nos enfants n'ont plus leur place car on engage des gens français à l'État alors qu'il y a quelques années, on devait être Suisse, résider à Genève pour travailler dans les services de l'État. Qu'est-ce qui se passe ? Fin du WhatsApp. Est-ce qu'on veut apporter une réponse à ça ? Mais au-delà de la question de l'État, on voit bien que l'impact pour les gens, c'est de dire, finalement, moi je suis sur le marché du travail et il y en a d'autres qui viennent récupérer cette place-là. Je vais élargir le spectre et pas tant m'intéresser juste à l'État. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus ? Je veux pas vous lancer la pierre, Guillaume Jacquemous, mais vous êtes dans un secteur qui connaît bien ça.
Oui, tout à fait. Moi, j'étais pendant 15 ans dans une banque, j'habitais Carouge pendant 5 ans, je suis franco-suisse.
Vous ne demandez pas votre... ne montrez pas de blanche. Hein,
non, mais voilà, il n'y a pas plus local que moi dans ces discussions. Et j'ai vécu les grandes phases d'utilisation de la population frontalière pour venir combler les trous, Romain l'a précisé, de main-d'œuvre. Depuis 2004 et la signature des accords bilatéraux, c'est-à-dire le bénéfice économique pour Genève quand même, franchement très intéressant et très important. L'hôpital cantonal fonctionne principalement avec des frontaliers. Et je pense que la peur qu'il y avait eu à un moment donné, c'était aussi la culture. Les Français travaillent beaucoup par cooptation, les grandes écoles, les cadres amenant des cadres. 20 ans plus tard, je n'ai pas l'impression que la culture suisse, que la Suisse-ness, que les valeurs genevoises du travail aient été chamboulées par ça. Après, bien sûr, une personne qui cherche du travail, et on en connaît, peut toujours se poser la question et regarder midi à sa porte. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est à la fois nécessaire et c'est même une chance.
Peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Guillaume, effectivement, on peut pas... on a des grands équilibres, on a une dynamique qui est là, on a besoin de ressources, mais on ne peut pas nier non plus les difficultés qu'il peut y avoir pour un certain nombre de personnes parfois à retrouver un emploi. Ce que disait Maître Ameya juste avant est juste, hein, la formation, rester à niveau, c'est un élément important. Je crois que les services de l'État et l'Office cantonal de l'emploi en particulier font un travail important pour justement que des profils qui sont plus forcément en phase avec les attentes du marché du travail puissent se remettre à niveau, puissent acquérir de nouvelles compétences. Et donc ça passe aussi beaucoup par là, c'est-à-dire l'accompagnement de ces personnes en situation de chômage pour retrouver une place sur le marché du travail, retrouver une place dans l'économie et dans la société.
On va continuer de parler de toutes ces questions avec un nouvel invité, raison pour laquelle je vais vous remercier. Guillaume Jacquemot, le président des Panoramiques du Salève et directeur d'Action Planète Events. Julien Gautret, je rappelle que vous êtes responsable de la gestion de fortune franco-suisse chez Alchimia. Maître Anne Meyer, avocate associée de l'étude Meyer-Retzo du Nant. On rappelle quand même cette journée toute particulière.
Oui, merci beaucoup. C'est la journée de droit du travail, donc une formation continue que les gens adorent. Elle existe depuis plus de 35 ans. Elle attire environ 500 personnes chaque année. Apple Expo, DRH, beaucoup de personnes actives dans les ressources humaines, des juristes d'entreprise, des avocats, avocates. Elle a lieu le 30 septembre prochain. Les inscriptions sont encore ouvertes. Il reste quelques places. Je vous encourage à vous inscrire.
Je n'ai plus rien à dire.
Merci.
Si ce n'est, merci beaucoup.
Économie sur Radio Lac et les chaînes Carac, avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
Les défis du Grand Genève, on a parlé compétitivité, on a parlé opportunité. Parlons maintenant mobilité avec Jean-Luc Bourget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Jean-Luc Bourget, le directeur de la direction de la régulation du trafic et des opérations à l'Office cantonal des transports. C'est donc dire si vous êtes la bonne personne pour parler de cela. Romain Durier, le directeur opérationnel et directeur général adjoint de la CCIG, est bien sûr toujours avec nous pour parler de ça. La mobilité dans le Grand Genève, on pourrait dédier 15 émissions. On va commencer par le début avec un nouveau projet autour de la fameuse intelligence artificielle, c'est-à-dire elle va résoudre les bouchons.
J'espère bien qu'à terme, elle résoudra les bouchons et qu'elle nous aidera au moins à résorber les bouchons. Elle est compliquée, cette intelligence artificielle, puisqu'elle débute finalement. Elle est, pour certains, elle est récente. Pour d'autres, elle est un peu moins récente. Je veux dire qu'un système informatique qui fonctionne pour lui-même, c'est l'intelligence artificielle. Donc ça dure depuis longtemps. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui a de l'auto-apprentissage. Donc nous, on l'utilise dans le cadre du comptage trafic. On avait jusqu'à présent des détecteurs dans le sol intrusifs qui dérangeaient le citoyen et l'usager lorsqu'on devait faire les éléments, qui dérangeaient quand on devait les remplacer, etc. Donc on a cherché plutôt des équipements qui soient non intrusifs et puis des outils qui nous permettent d'avoir une classification un peu des usagers parce que le piéton est régulièrement oublié dans tout ce qui est comptage. Or, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, par l'analyse d'images, offre toutes ces opportunités-là. Donc, nous avons déployé depuis de nombreuses années sur le canton des caméras de surveillance du trafic. Et nous avons relié ces caméras à un outil d'intelligence artificielle qui nous fait ce comptage du trafic, qui nous permet maintenant de connaître un peu mieux ce qui se passe sur le territoire, qui nous permet de mieux cadrer nos aménagements lorsqu'on fait des modifications et qui nous permet aussi d'avoir une meilleure adaptivité sur la régulation du trafic, qui devrait, pardon, conditionnel, puisqu'aujourd'hui, le système n'est encore pas relié à nos contrôleurs de Carrefour.
Parce que précisément, les contrôleurs de Carrefour sont des humains, j'espère bien qu'ils vont rester. Donc comment est-ce que l'IA va venir s'intégrer là-dedans? Est-ce qu'elle va dire « Ah, attention, dans 10 minutes, il va y avoir beaucoup de monde, je sais pas, qui est Gustave Adore ?» On sait que tous les matins, tous les soirs, il y a du monde qui est Gustave Adore.
Voilà, l'objectif, c'est de savoir à quelle heure il y aura du monde. Et puis, la difficulté, c'est de savoir aussi quand il n'y aura pas de monde. Parce que jeudi dernier était le jeune Genevois. Les contrôleurs de Carrefour ont fonctionné comme un jeudi standard. Or, ils n'étaient pas très proches de la réalité, puisqu'en fait, il y avait très peu de trafic aux heures de pointe du matin. Donc l'objectif est bien justement de pouvoir détecter, capter et anticiper ce qui va se produire. Donc nous avons fait l'acquisition d'un outil, hormis celui qui fait le comptage trafic. On a un deuxième outil qui est origine d'une spin-off de l'EPFZ, qui permet de faire de la modélisation du trafic. Cette modélisation, c'est d'abord dire à l'outil, voilà comment fonctionne Genève en termes de mobilité. Et ensuite, si j'ai un événement sur le terrain, que va-t-il se passer? Si j'ai un chantier, que va-t-il se passer? Si, voilà. En fait, c'est de pouvoir anticiper tout ça et de répondre au mieux et d'anticiper réellement les événements que nous aurons, les bouchons, etc. Il n'y a pas de chantier sans bouchons, malheureusement. Et puis, nous avons une deuxième partie de cette application qui, elle, est réellement basée sur l'IA, qui aura les données trafic en temps réel et qui pourra faire de l'auto-apprentissage et mieux se réguler par rapport aux besoins que nous avons.
Parce qu'au bout d'un moment, il y a des travaux, bah oui, ça arrive, il y a beaucoup de monde qui vont du même point au même point B à la même heure. Est-ce que l'IA, la fluidité, essayer de mettre en place des transports publics qui sont pris ou non, est-ce qu'au bout d'un moment, la solution, c'est pas juste de dire bah, « il y a trop de monde
». Sincèrement, je peux vous le dire. Il y a trop de monde.
IA, j'ai un peu de mal à comprendre très concrètement comment on va pouvoir changer les choses. Rerouter le trafic ?
C'est mauvaise question. Okay, non, je plaisante. Il y aura toujours du monde sur les routes, que les gens soient dans les transports publics, qui sont en vélo, qui sont en voiture. Il y aura toujours trop de monde. Les infrastructures de Genève ont été définies il y a quelques temps. On va pas raser des immeubles pour faire des routes. Donc, à un moment, on doit se contenter de ce qu'on a. La population augmente. L'économie va toujours aussi bien, donc le nombre d'emplois augmente. Il est bien entendu que les gens doivent se déplacer, ne serait-ce que pour aller à leur travail.
Romain Durieux.
Oui, peut-être un point, effectivement.
Le point trafic, donc, de Romain Durieux.
Le point trafic, effectivement. Que le nombre de déplacements augmente, ça c'est un fait. Après, il y a quand même un certain nombre de leviers qu'on peut utiliser. Alors, la technologie en est un, avec l'intelligence artificielle pour réguler le trafic. Nous, on croit aussi beaucoup à la CCIG sur le report modal. On voit que les habitudes aussi des personnes changent, hein, que ce soit des Genevois comme des frontaliers.
Le Léman Express est plein.
Ça a été un grand succès dès le lancement en 2019, avec une occupation qui pousse vers des défis. Aujourd'hui, il y a des nouvelles commandes de matériel qui vont être mises en œuvre pour augmenter les capacités. Les TPG mettent en place des plans de mobilité ambitieux à destination des entreprises pour que les entreprises soient aussi actrices de cette mobilité douce et puissent proposer des solutions à leurs salariés pour avoir du report modal. La Fondation des parkings et l'État réfléchissent à des solutions pour reculer un petit peu les zones de parkage du centre-ville de Genève et délester un petit peu la circulation. Donc en fait, je pense qu'à la fin, on a surtout un mix de solutions qui doit arriver. Et quand on parle de l'IA, effectivement, c'est une partie de la solution, mais ça sera, à mon avis, pas toute la solution, mais c'est une partie de la solution. Mais on doit aussi réfléchir à tous les autres éléments de ce mix qui vont finalement faire qu'on va pas diminuer le trafic, mais qu'on va faire que le trafic sera plus supportable et sera peut-être plus respectueux aussi de l'environnement, parce que c'est un élément qui est important. Et demain, les entreprises qui seront actives dans cette transition, je pense, vont avoir un facteur aussi de compétitivité supplémentaire, en tout cas un facteur d'attractivité vers les talents supplémentaires, parce que c'est aussi une demande des salariés, des collaborateurs, de pouvoir avoir accès à une mobilité qui soit plus douce et qui soit plus respectueuse de l'environnement.
Ce que je retiens, c'est que Parlons Économie, c'est l'émission où on trouve des solutions. Et on va continuer de le faire dans un instant. Restez là.
Parlons Économie sur Radio Lac et les chaînes Carac.
Parmi les défis du Grand Genève dont nous parlons aujourd'hui, il y a la mobilité. Jean-Luc Bourget est le directeur de la direction de la régulation du trafic et des opérations à l'Office cantonal des transports. On parle de ces nouveautés un jour via l'intelligence artificielle. Un logiciel qui s'appelle Flow, notamment, qui permet de distinguer différents types de véhicules et d'usagers. C'est formidable. À quoi ça sert concrètement quand on parle mobilité dans le Grand Genève ?
L'exemple que je donne, c'est lié principalement aux piétons. Lorsqu'on a un passage pour piétons à traverser avec des feux régulés, on a toujours du mal à définir le temps de verre qui doit être fourni en fonction du nombre de piétons. Finalement, s'il y a deux piétons, on peut mettre à un endroit un temps de verre qui est réduit. Mais si c'est deux piétons à mobilité réduite, on devrait augmenter ce temps de verre. Or, on ne sait pas, nous. On n'a pas de moyen de détection aujourd'hui entre une personne qui marche à vitesse normale et une personne à mobilité réduite, voire les groupes d'élèves lorsque c'est les écoles qui se déplacent. Et si on avait des caméras intelligentes qui puissent nous dire quel est le volume de personnes qui se déplacent, quelle est la nature de la personne qui se déplace, on pourrait adapter d'autant plus facilement le temps vert besoin à la personne. Ce qui permettrait de favoriser principalement la sécurité routière. C'est quand même la première mission de la mobilité. C'est d'abord la sécurité routière avant la fluidité. Et à partir du moment où on aurait ces données, on pourrait optimiser d'autant plus le temps de verre pour les piétons. Et ce serait la même chose également pour les autres types d'usagers.
Juste vraiment d'un mot, parce qu'on parle IA depuis tout à l'heure. Les données, elles partent aux États-Unis, en Chine, ou elles restent à Genève ?
Elles sont hébergées à Genève. Alors, ça ne concerne pour l'instant que les données de comptage du trafic. trois piétons, deux voitures, trois poids lourds. Et ces données vont être mises en open data de manière à ce que tout le monde puisse y accéder.
De manière anonymisée, comme toujours.
Elles sont anonymisées. Il y a trois personnes, mais on ne sait pas lesquelles. Il y a 10 voitures, on ne sait pas lesquelles. On n'a pas ce genre de choses.
La mobilité, c'est vrai que c'est quand même un des défis. Et on le voit bien durant cette émission du Grand Genève. Est-ce que ça sera abordé lors de la table ronde qui va avoir lieu tout bientôt, Romain Durier ?
Oui, effectivement, on aura une table ronde du Grand Genève qui est co-organisée avec l'État de Genève, le pôle métropolitain du Genevois français, la CCI France-Suisse, le 2 octobre prochain, qui se tiendra à la CCIG. Et on parlera de mobilité, on parlera de compétitivité des entreprises, on parlera des évolutions déjà de ce qui a été fait ces 10 dernières années, hein, parce qu'on l'a dit juste avant, le Léman Express a amené beaucoup, mais il y a eu aussi beaucoup de projets d'infrastructures qui se sont développés. Et donc on en parlera, on fera un point sur ce qui a été mis en place, pas plus tard qu'en début de semaine, la Voie Bleue, hein, comme vous avez suivi aussi. Et puis ce qui va arriver dans le futur, les perspectives, et comment on arrive à créer un mix de mobilité qui soit efficace et qui allège finalement nos routes.
Voie bleue, voie verte, intelligence artificielle, multimodalité. Vous avez du travail, dis donc, Jean-Luc Bourget.
Oui, tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Je ne vous reprochais pas.
Tant mieux. Disons que l'IA a cet avantage que j'ai un certain âge. Un de vos confrères a dit que j'avais quelques kilomètres au compteur. J'ai connu l'Internet. Quand l'Internet est arrivé, j'ai regardé, je me dis, qu'est-ce que je vais en faire? Puis vous voyez, aujourd'hui, on n'arrive plus à s'en passer. L'IA, je pense que c'est une nouvelle technologie qui arrive, qui offre une perspective assez ouverte. On verra ce qu'elle donne. Il n'y a pas, j'ai entendu des échos en disant, est-ce qu'on doit autoriser, est-ce qu'on ne doit pas autoriser? Pour moi, c'est ce que vont faire les gens, finalement, de cet outil. Ce que je recherche aujourd'hui, pour moi, dans le cadre de ma vie professionnelle, c'est surtout d'optimiser la gestion du trafic, la régulation du trafic, et d'améliorer les conditions de circulation et de déplacement pour tous.
Et pouvoir rapidement identifier, tiens, à tel carrefour, il y a eu un problème, comment on fait pour redistribuer la circulation, de manière à la rendre fluide.
Exactement. Avec l'unité routière de la police cantonale, nous avons créé une centrale de gestion du trafic. C'est une entité qui surveille le trafic en temps réel de 7h à 19h30. Nous avons également rattaché à cette centrale de régulation du trafic des équipes de terrain qui sont composées par des agents de circulation. L'objectif est, quand il y a un événement, on doit agir au plus vite pour minimiser les conséquences de l'événement. Donc au travers de la même application qui fait les comptages trafic, elle a aussi une fonctionnalité qui est une durée de stationnement. Si on convertit ça en temps d'arrêt sur la route pour un véhicule qui ne devrait pas s'arrêter dans un carrefour notamment, on sait qu'il y a un événement juste à proximité. Donc l'objectif est bien de capter la voiture arrêtée dans le carrefour, de créer une alarme auprès de la centrale de régulation du trafic pour pouvoir envoyer les équipes unité mobilité sur le terrain. Objectif, sécuriser le trafic et fluidifier. Voilà. Et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, mais ça avance. On avance. On a déjà 2-3 carrefours qui fonctionnent. On fait les analyses pour mieux comprendre l'outil, ce qu'il peut nous apporter, et puis évoluer à nouveau.
Je rappelle, Jean-Luc Bourget, que vous êtes donc le directeur de la direction de la régulation du trafic et des opérations à l'Office cantonal des transports. Merci beaucoup. Merci également à Romain Durier, le directeur opérationnel, directeur général adjoint de la CCIG. D'un mot encore, cette table ronde, vous l'avez dit, en mi-octobre.
2 octobre prochain à la CCIG de 7h30 à 9h et on aura un panel d'intervenants représentant des TPG, le directeur général Lionel Brasier qui sera avec nous, Marie Cardo qui est la directrice générale pour la Suisse du groupe Alstom qui est un fabricant, une représentante de la société Bilab, un représentant du pôle métropolitain genevois et un représentant d'Arche Park qui est le technopôle qui est juste à la frontière du côté d'Archamps, de l'autre côté de la frontière ici à Genève.
Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi cette émission Carac.tv en vidéo ou en podcast, là où vous les écoutez déjà. À la semaine prochaine.